Il me semble qu'avant même de faire connaissance, nous avions trouvé dans le paysage un terrain d'entente. Je crois bien d'ailleurs l'avoir croisé, il y a plus longtemps encore, du côté de la Grave, un jour où j'étais venu admirer le panorama de la Mège. J'étais encore novice et j'avais été littéralement sidéré par ce spectacle grandiose, qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer d'après les photos que j'en avais vues ou les descriptions que j'en avais lues. J'étais resté émerveillé et terrassé par la démesure de ce spectacle qui s'offrait à mes yeux. À la fin de l'après-midi, le temps s'était couvert et les sommets avaient disparu derrière les nuages. Pour me remettre de mes émotions, je suis allé dîner dans un restaurant où le service se déroulait selon un cérémonial d'un autre âge. Alors que le garçon s'avançait vers moi d'un pas lent et solennel, comme s'il m'apportait la montagne sur un plateau, une éclaircie se fit jour et l'on put entrepercevoir, à travers les grandes baies vitrées de la salle, très loin au-dessus de la vallée, déjà plongée dans l'obscurité et comme suspendue dans les airs, les glaciers baignés par la lumière magique du crépuscule. Au moment d'arriver à ma table, le serveur s'arrêta un instant pour contempler cette apparition sublime. Puis, se retournant vers moi avec un sourire radieux, il prononça à voix basse et sur le ton de la confidence le nom de la Mège, comme s'il s'agissait d'un secret réservé aux seuls initiés. Il avait l'air extasié d'un prêtre officiant à l'autel de quelque divinité dont il avait toute sa vie desservi le culte et qui daignait enfin de se révéler à ses yeux. Je me demande aujourd'hui si ce n'était pas déjà Henri Raynal qui m'initiait ainsi au mystère du paysage. Pardon pour cette plaisanterie. Mais voilà, c'est ce que ça m'a rappelé, ce texte très beau que Henri Raynal a écrit et dont le titre est un peu trompeur, Le pays sur le chevalet, qui est consacré à ce site célèbre. Henri Raynal y fait revivre une expérience proprement renversante qui déjoue en fait les conventions de la représentation paysagère traditionnelle. Je vais citer assez souvent Henri Raynal, mais je n'aurai pas toujours le temps de préciser que c'est lui que je fais parler et vous reconnaîtrez tout de suite parce que ce sera bien mieux que ce que je peux dire moi. Voilà. Vu depuis la Grave, ce versant de la Mège, je commence par une sorte de phénoménologie de cette expérience du paysage telle qu'elle se donne à lire dans ce texte. Ce versant de la Mège défie les règles de la perspective qui a longtemps organisé depuis la Renaissance l'espace pictural occidental en une série de plans savamment étagés et échelonnés en profondeur. Sa verticalité abrupte brouille les rapports entre le haut et le bas, le proche et le lointain, le grand et le petit, le ciel et la terre. Je cite, le sol est dans les airs, paysage projeté, basculé. Cette verticalité empêche la mise en place d'une ligne d'horizon où situer le point de fuite, corrélat de ce point de vue toujours plus ou moins dominant, qui est le privilège de l'homo erectus. La masse écrasante de ce massif domine le spectateur qui ne saurait en prendre une vue d'ensemble. Ce n'est pas lui qui dirige ses yeux vers le paysage, c'est celui-ci qui, je cite, « commande le regard ». La montagne s'impose et s'expose à lui. C'est elle qui se désigne et se présente à son attention. Ce n'est pas lui qui la découvre, mais elle qui se montre et se décrit elle-même. Je cite, « la montagne présente la montagne, La montagne enseigne ce qu'est la montagne. La perspective anthropocentrique est ici inversée. C'est le paysage qui prend l'initiative de sa présentation et de sa représentation. Par ailleurs, autre différence par rapport à la tradition du paysage occidental, loin de rester sage comme une image, il est animé d'un mouvement perpétuel, en proie à une métamorphose continuelle sous l'action conjuguée des éléments et des phénomènes qui le façonnent. Plus que des formes fixes, il exhibe le jeu des forces qui les sous-tendent et les produisent. Ce paysage actif est ainsi la fabrique du paysage. Raynal nous le montre au travail et tente d'en décrire le fonctionnement aussi complexe que celui d'une gigantesque usine. Loin de l'idéaliser et de l'esthétiser, Raynal insiste sur sa matérialité, sur son physique et sa physique. Mais l'énergie qui s'y déploie n'a rien de mécanique, c'est celle de la physis, capable d'inventer des formes toujours nouvelles qui font du paysage une œuvre d'art en soi et par soi-même, non pas un tableau achevé, mais un work in progress, une sculpture en cours. Cette activité autonome fait du paysage tout autre chose qu'une vue de l'esprit. Elle échappe au pouvoir de l'homme qui ne peut qu'y assister sans y intervenir. Ce refus, d'un point de vue anthropocentrique, à partir duquel le spectateur projetterait ses états d'âme sur le monde extérieur, n'élimine pas pour autant le facteur humain et affectif dans l'expérience et l'expression du paysage. Selon la formule énigmatique de Cézanne, l'homme est absent, mais tout entier dans le paysage. Par une sorte de révolution copernicienne, Raynal inverse les rôles et le sens de la relation paysagère qui s'avère centrifuge et non centripète. Loin de tout ramener à lui pour s'approprier le paysage qu'il a sous les yeux, l'homme est comme absorbé par lui et lui appartient. Je cite, le spectateur que je suis n'en est pas moins intérieur à la montagne. Il n'est plus face à elle, mais en elle. Non plus devant, mais dedans. La montagne que j'observe, en un mot, m'entoure, m'inclut. Cette immersion relève de la sensation plus que de la perception. La conscience y est plus réceptive qu'active. Elle est saisie par le paysage plus qu'elle ne le saisit. Un tel saisissement est une réponse affective qui est de l'ordre de l'émotion, non du sentiment. Selon Raynal, l'émotion ne consiste pas dans une projection de la subjectivité au dehors, mais d'une introjection de l'univers dans le fort intérieur du sujet. C'est à tort qu'elle est décriée comme subjective, dit-il. À force de dire que je me projette sur le monde, on censure le retentissement du monde en moi. C'est le paysage qui la suscite en moi, comme si je n'en étais à la limite que le réceptacle. Il pénètre en moi, d'irrésistible façon, m'envahit, la pression de cette présence passée en moi a un nom, émotion. Cela ne veut pas dire pour autant que je sois purement passif, car le pays ne pourrait devenir paysage si je n'y étais pas sensible. Il n'est d'émotion que personnelle, il faut à l'émotion pour s'éprouver l'habitacle d'un individu déterminé. L'émotion du paysage est à la fois objective et subjective. Elle naît d'un double mouvement par lequel l'homme et le monde viennent à la rencontre l'un de l'autre. Henri Raynal n'a cessé d'interroger cet échange entre l'intérieur et l'extérieur qui est au cœur de l'expérience paysagère. Dehors, l'océan et la rivière intime se rencontrent. Je suis au contact des deux. Autant qu'un état de l'âme, l'émotion est l'état d'un corps qui, je cite, se sent accordé au corps du monde. Interface entre le dedans et le dehors, comme le paysage, le corps humain est ce pli dans la chair du monde grâce auquel celui-ci accède à un sens immanent au sensible. Mon émotion est la propriété de l'univers, appartient à l'infini incarné en moi. Pour qu'une intériorité advienne, il n'est besoin que d'un repli. Et je citerai une fois encore Cézanne qui disait « Le paysage se pense en moi et je suis sa conscience. » Reste à passer de l'expérience à l'expression du paysage. Comment le peintre et le poète peuvent-ils exprimer cette expérience par la médiation de leur art ? Nul doute qu'il ne leur faille suspendre cette relation immédiate au monde pour travailler avec les moyens mis à leur disposition par le langage ou la peinture. Mais en explorant ainsi l'univers des formes, des mots, des couleurs, ils ne tournent pas fatalement le dos au monde sensible, ils s'en inspirent et ne s'en détournent que pour y retourner. C'est le paradoxe sur lequel on reviendra sûrement tout à l'heure, qui est au centre de l'esthétique et de la poétique d'Henri Raynal. Il a constamment combattu l'idée dominante selon laquelle l'art moderne aurait rompu toute attache avec le monde extérieur pour se constituer en un univers autonome. Toute œuvre a selon lui deux origines, l'une extérieure au domaine artistique, l'autre qui y est incluse. La double origine, c'est le titre du recueil des écrits sur l'art dont on parlera tout à l'heure et dans lequel la peinture de paysage occupe une place importante. Donc ces deux origines, l'une extérieure venant du monde, l'autre incluse venant du monde de l'art, sont toutes deux nécessaires à son accomplissement, mais en réaction contre le formalisme, Raynal a toujours mis l'accent sur la première, dotée, dit-il, d'une force égale à la seconde. Une puissante impulsion à créer est engendrée par la surprise que nous offre en tant que tel l'univers, par la compagnie de la nature, par l'amour porté au visible. Le travail sur le signifiant n'exclut pas la référence, ni le mot ni l'image ne me séparent du monde, soutient Raynal, en travaillant la matière des mots, l'écrivain explore la matière des choses pour les fondre en une seule matière émotion. La haute, large, la profonde, l'intense satisfaction produite par l'écriture, distincte de l'émotion qu'engendre en moi la matière des choses, parce que second tend néanmoins à s'y confondre. L'esthétique, selon Raynal, s'inscrit dans le prolongement de l'aesthésis, en recourant aux propriétés physiques de son matériau, coloris ou sonorité, le peintre ou le poète produit une émotion spécifique qui entre en résonance avec l'expérience sensible tout en l'enrichissant et en la transformant. Le rapport que la création artistique entretient avec le monde n'est pas mimésis, mais poiesis et sémiosis, s'écartant d'une plate imitation ou d'une simple figuration, elle en renouvelle l'image et donne à voir ce qui n'en avait pas encore été perçu. À l'œil photographe s'est joint l'œil imaginatif, car il appartient à l'imagination de ne pas s'absenter du visible. Le visible reste à voir avec un œil qui apporte sa générosité. L'imagination est une seconde vue qui donne accès à l'invisible logé au cœur même du visible et fait de l'artiste, je cite, « le visionnaire de ce qui est ». Pas plus qu'il ne se borne à le décrire, l'art ne saurait rompre avec le monde, il le redécrit et le recrée en révélant ce qu'en masquent nos perceptions habituelles. Et s'il peut le faire, c'est à la fois en inventant un langage inédit et en mobilisant une vision du monde original. C'est à ce prix qu'une œuvre peut nous offrir un nouvel aspect du monde. Aspect, précise Henri Raynal, lié à un auteur, attiré, tiré, extrait par lui, conduit jusqu'au jour un aspect signé. Cette conception de l'œuvre d'art rejoint en profondeur la définition du paysage qui n'est autre que l'aspect d'un pays offert au point de vue d'un sujet. Le paysagiste ne peut échapper à l'emprise des clichés des lieux communs pour transformer notre représentation du monde qu'en y investissant son expérience la plus personnelle et la plus singulière. L'importation métamorphosante du paysage dans la sphère du verbe ou de l'art, c'est une personne, avec son riche bagage intime, qui l'effectue. L'interprétation qui introduit à l'universel est celle d'une subjectivité dont il n'est pas d'autre exemplaire. De donné, d'anonyme qu'il était, le paysage peut ainsi devenir paysage signé. Innombrables sont donc les voies que peut emprunter la peinture de paysage depuis qu'elle s'est libérée des conventions de la perspective et des contraintes de la figuration. Beaucoup de peintres contemporains, selon Raynal, puisent aujourd'hui encore leur inspiration dans le spectacle de la nature, même s'ils n'en retiennent qu'un élément pour le soumettre à l'élaboration d'un langage et de formes qui n'ont plus rien de mimétique. Le paysage est à ses yeux une forme en perpétuelle métamorphose, animée par des forces qui en renouvellent constamment l'aspect, engagée dans un processus d'autopoïèse permanente qui est commun à la natura naturans et à la création artistique. Il est, pour Raynal, un des visages de la diversité qui est, comme on l'a déjà dit, au cœur de sa philosophie de la nature. Et donc, les expressions très variées que lui donne la peinture contemporaine ont cependant en commun le refus de reproduire l'apparence du paysage pour mieux le faire apparaître. En ce siècle, le peintre montre la venue au visible, le phénomène. Donc, très rapidement, parce qu'on va y revenir plus en détail, Henri Raynal s'intéresse à des modalités de la peinture de paysage, par exemple ce qu'il appelle le paysagisme allusif, paysage elliptique, jusqu'à la dénudation extrême, comme par exemple celui de Jean-Marc Ehanot, qui incorpore en lui, dit-il, l'été, le spectacle des rivages bretons. Si cette peinture peut paraître abstraite, il s'agit d'une abstraction lyrique qui évoque les sensations et les émotions que l'artiste a éprouvées dans les sites qu'il est parcouru, mais aussi les émotions que lui donne son matériau et qu'il communique à ses tableaux et à leurs spectateurs. Raynal s'est intéressé aussi à ce que Michel Ragon appelait le paysagisme abstrait. Cette appellation recouvre des démarches artistiques diverses, mais qui toutes consistent à extraire du paysage un aspect à partir duquel le recomposer. Par exemple, son dynamisme, comme Michel Biot ou Alexandra Vassilikian, sa matière, comme dans les sols et terrains de Jean Dubuffet, ou, dit Raynal, les étendues de plâtre, d'enduit, de bitume, souvent privées d'horizon, apparaissent pourtant comme de vrais paysages. Il ne manque même pas de rappeler que même une peinture aussi géométrique que celle de Jean Le Gros a été inspirée d'un paysage réel, d'abord photographié, puis dessiné de nombreuses fois afin de n'en garder que l'essence. Et de fait, ces toiles à bandes peuvent être vues comme une série d'horizons superposés. plus encore qu'à ses tentatives pour dégager l'essence, la résonance ou la structure du paysage visible, Reynal s'intéresse aux artistes qui cherchent à en suggérer l'infrastructure ou le principe invisible. Cette recherche peut s'orienter dans deux directions distinctes, mais qui sont, à ses yeux, complémentaires ou superposées, vers une physique ou vers une métaphysique du paysage. Le soubassement invisible du paysage, c'est d'abord la texture de la matière dont il est fait. Un art visuel comme la peinture peut cependant parvenir à l'approcher, à condition de rompre, évidemment, avec toute espèce de figuration ou d'évocation du monde visible. La peinture d'Hans Hartung apparaît à Reynal comme la mise en scène dans le visible de l'activité physique invisible, en animant sa touche et son trait d'un mouvement brownien. Il interprète la vie des particules dont les trajectoires parcourent l'univers. Mais s'agit-il encore d'un paysage? Plutôt qu'un paysagisme abstrait, on a affaire ici à ce qu'on a pu appeler un naturalisme abstrait. Il faut cesser, nous dit Reynal, d'opposer l'art et la nature. Ils sont consanguins et complices, car ils relèvent tous deux de la même énergie fertile. L'une en est la manifestation première, l'autre une seconde manifestation de l'entreprise anonyme qui, jour après jour, anime et renouvelle l'univers. Comme exemple de cette continuité entre la nature et l'art, il cite le paysage peint, et il présente celui-ci à l'opposé des thèses culturalistes, non comme le produit d'une artialisation de la nature, mais comme l'aboutissement d'un processus naturel. L'inlassable mouvement inventif à l'œuvre dans la nature s'est transmis à l'homme. Or, un tel processus n'est accessible qu'au regard de la science, alors que le paysage est l'expérience et l'expression d'une relation au monde qui passe par les sens et la sensibilité d'un individu. Il comporte une part invisible, mais elle est inscrite dans le visible lui-même, comme son horizon, que l'art et la poésie ont vocation à explorer et à déplacer. Au-delà ou en deçà de cet invisible impliqué dans le visible, Reynal vise une dimension du réel qui échappe à l'expérience sensible et que seule la science peut expliquer. Je cite, « Nous jouissons du concret que nous livrent nos sens. À cela s'ajoute ce dont la science nous informe. Elle nous apprend comment s'élabore le spectacle spontané, ce que dissimule l'aspect qu'ont pour nous les choses. La science nous conduit au-delà du phénomène, qui n'est à ses yeux qu'une apparence, à dépasser pour accéder à la réalité qu'elle dissimule. Celle-ci ne saurait être vue ni ressentie. Elle est l'objet d'un savoir qui ne se restreint ni à l'aspect qu'ont pour nous les choses, ni au point de vue limité d'un sujet. Pour l'atteindre, il nous faut quitter le terrain d'une phénoménologie du paysage pour celui d'une cosmologie. Reynal a beau soutenir qu'il n'y a pas lieu d'opposer l'aspect des choses aux matériaux inapparents et que le cosmique n'est pas l'ennemi du sensible, il n'en est pas moins vrai que la matière mathématisée n'est pas la matière émotion du paysage et qu'elle reste étrangère à notre expérience. Le passage du voir au savoir enrichit et élargit considérablement notre vision du monde. Et Henri Reynal n'a pas tort d'en faire l'occasion, voire la condition d'une nouvelle alliance entre l'homme et l'univers. Mais cette alliance se noue sur un autre plan que celui du paysage. Celui-ci n'est que, dit-il, la partie visible d'un tout qui n'est accessible qu'aux yeux de l'esprit, grâce auquel Le paysage se prolonge, s'immensifie, se poursuit aussi loin qu'aille l'univers, au-delà de tout horizon. Petite parenthèse, Henri Raynal m'a fait un jour remarquer que le mot horizon, sur lequel j'ai pas mal écrit, se trouvait rarement sous sa plume. Il s'en étonnait lui-même et il attribuait cette rareté à son goût pour la montagne, qui se présente comme un obstacle fermant l'horizon, et à sa conviction que l'infini vient nous trouver ici, dans le concret. Mais je crois bien que c'est lui qui nous entraîne au-delà des limites du paysage. N'est-ce pas précisément la fonction de l'horizon que de délimiter le paysage tout en l'ouvrant à une infinité de paysages possibles? D'horizon en horizon, le monde s'offre à nous comme horizon des horizons, c'est-à-dire comme totalité non totalisable du sensible. Raynal se réfère plutôt au cosmos ou à l'univers infini de la science moderne. C'est, dit-il, par-dessus l'épaule de l'horizon que l'univers se penche vers nous. Il ne saurait se contenter d'un invisible et d'un infini inscrit dans le visible et le fini. Il les cherche au-delà de ce qui est vu et déjà connu pour faire un saut dans l'inconnu. Sa philosophie de l'art et de la nature débouche sur une métaphysique. L'invisible que cherchent à atteindre des peintres comme Marc Taubé, Sam Francis ou Marc Rothko se situe au-delà de l'horizon sensible et même de l'horizon cosmologique. Ce référent ultime, écrit Henri Raynal, est l'autre du monde. Il ne réside pas seulement au niveau des processus naturels que les progrès de la science nous font de mieux en mieux connaître, mais révèle l'action d'une force que Raynal nomme de multiples façons, mais qui reste inconnaissable. Qu'est-ce qui s'oppose à ce qu'à travers les référents perceptibles se manifeste à l'intuition le référent, avec un grand R, et que ce dernier soit énigme? Au répondant situé dans le monde sensible s'ajoute l'influent métaphysique, le radiant mystique. Cette entité imperceptible n'est plus infrasensible comme la danse des atomes, mais suprasensible, et malgré le matérialisme et l'athéisme professé par Raynal, elle n'est plus naturelle, mais surnaturelle, non plus immanente à l'univers, mais transcendante. Raynal va jusqu'à hypostasier et personnifier Physis, qu'il écrit sans article et avec majuscule, en lui donnant donc un nom propre, un visage et une volonté. Il n'hésite pas à transgresser les données de la science en prêtant à la matière, je cite, le vouloir obscur de n'être plus simplement matière, à la vie une insatisfaction qui l'a fait aspirer à passer au-delà de son accomplissement, et à la nature elle-même, une tendance extatique. Parti de l'expérience sensible et d'un éloge du visible, la réflexion de Raynal s'oriente vers une intuition quasi mystique de l'invisible, une célébration quasi liturgique de l'invisible, et j'avoue avoir du mal, vous l'aurez compris, à le suivre sur cette voie pour des raisons philosophiques. L'hypothèse d'une perception hyperphanique me laisse perplexe, mais aussi stylistique. Pour s'égaler à l'immensité de l'univers et à la sublimité de la source qu'il célèbre, il hausse le ton, non sans une certaine emphase, qui illustre par exemple la multiplication des hyperboles, des vocatifs, des majuscules et des points d'exclamation. À ces envolées lyriques, je préfère les descriptions minutieuses d'Henri Raynal, plus terre à terre, se tenant au plus près des choses concrètes pour nous conduire vers ce que Reverdy appelait un lyrisme de la réalité. On trouve notamment dans son œuvre, on l'a dit, une phénoménologie du paysage ou du vêtement qui témoigne d'une attention extrêmement aiguë au sensible et qui lui inspire des pages, à mes yeux, éblouissantes. Cette phénoménologie est toute poétique, comme Raynal en avertit son lecteur au début de L'œil magique. Elle n'hésite pas à recourir à des images audacieuses qui heurtent notre vision habituelle du monde, mais la transforment et l'enrichissent. Elles dépaysent et transfigurent le réel, sans jamais le trahir. L'analogie qu'il établit par exemple entre les plis d'une robe et le relief d'un paysage est d'une justesse surprenante, d'autant plus convaincante qu'elle se dévoile elle-même au fur et à mesure en épousant les plis et les replis d'une syntaxe sinueuse et d'une phrase enveloppante qui mime en quelque sorte l'implication réciproque du dedans et du dehors, du sujet et de l'objet, du sens et du sensible au sein du paysage. Alors j'aurais voulu vous lire une de ces longues phrases, mais il est trop tard. Cette écriture et cet imaginaire étincelant sont au service d'une véritable philosophie du pli qui devance celle que Deleuze élaborera plus tard à partir de Leibniz, magnifique exemple d'une réflexion proprement phénoménologique qui trouve sa source dans l'expérience sensible et ne la quitte jamais tout en l'approfondissant. Elle produit des notions qui ne se figent ni en concept ni en système. Elle s'écarte du principe aristotélicien de non-contradiction pour mettre en œuvre une logique du tiers inclus propre à la raison poétique en multipliant les paradoxes qu'elle se garde bien de résoudre, préférant allier les contraires. En quoi Raynal se montre en cela fidèle aux leçons qu'il a reçues du paysage qui associe le haut et le bas, le ciel et la terre, le proche et le lointain, la limite et l'illimité. C'est cette finesse d'observation, de pensée et d'écriture qui lui permet d'allier de façon si étonnante et si brillante le poème et l'essai, la prose et la poésie.